Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur le Fast-Flux avec Sébastien Larigné. Et pour discuter de ce sujet, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Ronan Mouchou.
Bonjour.
Sébastien Joria.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonsoir.
Et moi-même, Johan Uloa. Donc Sébastien, le Fast-Flux, qu'est-ce que c'est ?
Alors, l'idée, c'est de garder la, quand un malware est sur une machine, que ce soit en entreprise notamment, qui puisse être résilient avec son canal de contrôle, il va avoir un même nombre de domaines, va résoudre plusieurs IP dans des temps très courts. Donc le TTL, ce qu'on appelle donc le time to live du nom de domaine, va être très très court et va changer de manière régulière. Comme ça, si on blacklist les IP qu'on voit passer, le malware continuera de communiquer avec la machine en utilisant le nom de domaine. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mixé les deux techniques, fast-flux et multiplicité des noms de domaine. Pour brouiller, comme ça, quand on bloque un nom de domaine, il passe au deuxième, qui lui va avoir son propre fast-flux, et ainsi de suite. Et donc, pour les équipes de détection, là, il y a plusieurs moyens. Si on est en analyse de statique pure, bah, ça va être de voir un peu les distributions, justement, des différents noms de domaine par rapport aux IP. Et combien de noms de domaine la machine va résoudre dans le temps en fait. Parce que c'est ça qui va être intéressant. Et typiquement, il y a des métriques qui ont été faites sur des mages sur en entreprise où on arrive à avoir des moyennes à peu près fiables sur un utilisateur moyen en nombre de requêtes par jour quoi. Et donc sur les systèmes de fast-flux comme ça on va se rendre compte qu'il y a beaucoup 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 de résolutions. Bien plus que un utilisateur lambda. Mais là où ça va vraiment être imparable, ça va être sur ce qu'on appelle les passifs DNS. Donc c'est des systèmes qui vont en fait enregistrer tout ce qui passe au niveau de la résolution entre les IP qui voient passer et les noms DNS. Il y a eu pas mal de conférences de fait là-dessus, notamment de Fiodor à Clu en 2010 ou 11, si je raconte pas de bêtises, qui montrait en fait les arbres comme ça de connexion et on voit vraiment que c'est du fast-flux et pas un trafic classique quoi. Mais là pour le coup ça demande on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça demande une grosse 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 capacité d'enregistrement et c'est pour ça que les solutions de passif DNS souvent sont des services commerciaux qui vont être proposés aux équipes de détection d'intrusion et aux entreprises qui vont l'utiliser quoi.
Avec quels outils tu pourrais repérer justement ces fast-flux sur ton réseau pour repérer ce type de situation et d'utilisation du DNS?
Faudrait prendre toutes les requêtes, tous les noms DNS qui passent et rejouer a posteriori les requêtes sur un serveur DNS de confiance déjà. Parce que si c'est sur un DNS menteur, ça ne veut pas dire grand-chose. Et voir si justement les IP changent. Typiquement, si c'est sur les IP sont sur des, par exemple sur des AS différents, il y a de grandes chances que ça soit du fast-flux. Typiquement, si c'est sur le même AS, c'est ce qui va se passer pour des connexions via Microsoft, via Google, les grosses sociétés qui vont avoir plusieurs IP pour un même nom de domaine. Là, elles vont provenir du même AS. Mais si c'est des AS différents, la géolocalisation différente, il y a de grandes chances qu'on soit sur un système de fast-flux. Mais ça, c'est pareil, ça va nécessiter donc d'enregistrer toutes les requêtes DNS qui sont passées, garder, en fait, faire un système de passif DNS, hein, c'est exactement le même principe, et de rejouer les requêtes pour voir si les IP vont changer.
Oui, mais ça, tu le fais pas à la main. Quel outil tu utilises pour ça?
Le mieux, c'est de le coder soi-même. Là, pour le coup, c'est vraiment de le recoder soi-même, parce que
Il
je
faut
crois pas ma...
partager, hein.
je ne crois pas qu'à ma connaissance, il y ait de comment déjà de solutions commerciales qui existent, ça c'est quasiment sûr. Et en open source, bon, en open source, il y a pas mal de trucs. Ben, moi, enfin, je sais que j'ai un framework dossier qui fait déjà ça, donc on peut s'en servir. Par contre, il n'a pas la capacité à stocker. Mais après, voilà, il faut juste avoir la capacité de stocker et coder un petit résolveur, enfin, un système qui va résoudre les requêtes, quoi. Là, pour le coup, c'est du scripting assez facile. Le seul souci, ça va vraiment être la scalabilité du système, quoi. Là, ça va poser d'autres problèmes.
Et puis ça dépend aussi, on va dire, du temps de réaction qu'on veut, puisque bah,
Voilà, c'est
dans
ça.
Seb, du coup, tu es parti sur un scénario, on va dire, à froid.
Ouais, quasiment, ouais.
Après, si ça peut arriver, hein, les logs de la journée, il faut 2 jours pour les traiter. On commence déjà à toucher un problème un peu insoluble. Mais ensuite, bah, on pourra imaginer des systèmes quasiment en temps réel, toujours basés, c'est un petit peu le principe qui revient depuis le début, c'est en gros de l'écart à la moyenne, donc du comportement déviant par rapport à la généralité des machines dans le parc. Par exemple, si on est arrivé à une moyenne statistique pour les postes de travail utilisateurs à 1000 requêtes, bah, par exemple, on n'a qu'à leur dire enfin, avoir un petit système qui va compter les requêtes, et une fois que le gars les a dépassées x2, x3, x4, bah, ça peut envoyer une alerte, bloquante ou pas. Et du coup, là, on est un petit peu plus dans le temps réel. De toute façon, on sera toujours dans la réaction, je pense, face à ce genre de technique d'évasion.
En fait, si je résume un truc, je vais lancer un pavé dans la mare, mais si pour régler le problème, en fait, il faut arrêter l'internet neutre et ouvert, en fait. Il faut faire de l'internet où on est filtré sur les DNS, etc. Non?
Enfin,
Non, ça changera rien. Hein. Ça te
non.
permettra pas d'échapper à ce type d'évasion et de logiciels malfaisants. Hein.
Mais si on t'oblige à passer par un DNS super sécurisé que met ton fournisseur d'accès, qui a mis DNS sec et tout ce qui va
Ouais,
bien, comme
ouais
le
mais
dit
les... ça change
l'entrepreneur
rien,
Stéphane.
ça change rien avec non, avec le fast-flux utilisé par le logiciel malfaisant, ça changera absolument rien.
En poussant le troll un peu plus loin, certains dépositaires de noms de domaine en vivent de ce genre de choses. Il y a des calculs qui ont été faits, notamment qui ont été présentés à l'ONENET Project, et il y a beaucoup 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 de trafic aujourd'hui malveillant et de fast flux qui vont passer sans citer de nom, par des CDN ou toujours par le même fournisseur de nom de domaine américain, qui il y a pas longtemps, enfin il y a quelques temps, s'était fait poney, quoi. Donc c'est inhérent, je crois, à l'infrastructure même d'Internet, et surtout comment on a délégué les noms de domaine.
Faut voir aussi du coup que le fast flux, du coup, ça, si je dis pas de bêtises, ça se base en gros sur le principe de round robin, donc qui est une rotation très rapide du TTL. Et
C'est
ça,
ça.
c'est utilisé par ce qui est, on va dire aujourd'hui, une des colonnes vertébrales d'Internet, les Content Delivery Network.
Ouais, les ce que
Et
j'appelle les
là,
CDN.
ouais, voilà, c'est les CDN. Ouais, voilà. Donc, les CDN peuvent être utilisés effectivement aussi pour balancer du malware, parce qu'aujourd'hui, bloquer un Akamai, c'est impossible, quasiment. Mais il y en a aussi, bah, du coup, enfin, un comportement fast flux malveillant et un comportement CDN légitime. Pour faire la différence, je suis pas forcément sûr que ce soit.
Ça devient
Ça
compliqué, ouais.
devient un peu compliqué.
Ouais, ça devient
Et puis
compliqué.
après, oui, bah, ensuite, pour revenir sur les registrars qui se font du blé, c'est vrai, mais il faut aussi voir que, on parlait de neutralité du net tout à l'heure, ils sont aussi dans une posture, on va dire, où ils vont pas faire de blocage a priori.
Non.
C'est contre la liberté.
Oui, surtout quand ça leur rapporte énormément d'argent.
Oui, bien sûr. Oui, mais il faut voir aussi dans le sens inverse. Bon, des fois, il y a du troll, la sécurité est un échec, on bloque une IP, on bloque un domaine, mais il va en recréer un autre. Mais oui, mais il faut voir que du côté attaquant, ça a un coût. Et à partir du moment où il commence à avoir une certaine infrastructure, quand vous avez 100, 200 noms de domaine de votre infrastructure CMC à changer, je suis pas sûr que tous les grands criminels n'ont pas de comptable, mais certains services ou machin, la comptable est, voilà, il va falloir faire une restriction sur les gommes et les papiers crayons, quoi.
Autant devenir registrar, quoi.
Ah oui.
Bon, eh bien, on espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Bonsoir.
Merci. Au revoir.
Salut.